à la découverte des fermes du Vercors, une série du parc naturel régional du Vercors, réalisée par Radio Royan. Aujourd'hui, rencontre avec Camille et Alexandre de la ferme de la Bicoque, à Échevis.
Je suis Camille Picot de la ferme La Bicoque. On est à Échevis ici. Échevis, c'est la vallée qui fait le lien entre le Royan et le Vercors. Et ici, on est à la ferme où on est vraiment pile au milieu entre la rivière de la Vernaison et les falaises du Vercors.
Alors moi, je suis Alexandre Garon. Je suis le fermier de La Bicoque. Et ça fait 8 ans qu'on est là et qu'on essaye de créer un lieu qui est plaisant et agréable pour vivre sainement de nos productions et nos ateliers. On a démarré par faire un peu notre nourriture. L'objectif, c'était de faire un peu de maraîchage, d'arbaud, d'élevage et de s'installer doucement dans cette ferme et développer ensuite divers ateliers. Donc on s'occupe d'un élevage de brebis, de chèvres et ensuite de tous les petits animaux de la ferme, poules, canards, lapins, pigeons, cochons, etc. Et à côté, on s'occupe de faire du maraîchage. Donc ça, c'est plus Camille qui pourra parler du maraîchage et de l'arboriculture.
Donc le maraîchage, on l'a développé au fur et à mesure, en agrandissant à chaque fois, en proposant surtout de la transformation. Donc du coup, à partir d'oignons, d'ail, de tomates qu'on fait pousser, on fait des conserves de coulis, de tomates cerises marinées à l'huile d'olive. Puis ensuite, on combine ce que nous donnent les arbres avec ça, par exemple les pommiers. J'en garde une partie pour faire de la compote pomme-rhubarbe ou de la compote pomme-pomme. Ici, quand on est arrivé, il y avait déjà un petit hectare de noyer. On se voyait pas laisser à l'abandon. Donc, on a exploité, on va dire, ces arbres qui fait à peu près une petite tonne par an. Et puis ensuite, on a planté pas mal de fruitiers, des pommiers, des cognassiers, ce qui marche bien ici. On a tenté d'autres arbres, mais qui fonctionnent moins bien avec le climat. On est en moyenne montagne ici, donc. Avec un ensoleillement qui est parfois un peu réduit l'hiver, même si on en a toujours. Donc faut faire avec ça. On est à peu près à 500 mètres d'altitude, donc on a quand même un peu de gel tardif, voilà.
Avec la vie qu'on avait avant, aussi bien en éducatif qu'en animation, on a développé une ferme pédagogique à la maison et surtout itinérante, c'est-à-dire qu'on se déplace dans toutes les structures qui ont un peu d'herbe et d'ombre pour amener nos animaux et qui soient en lien avec des personnes âgées, des jeunes. Dans les quartiers, dans les villes, on va vraiment partout depuis 7 ans maintenant avec un camion aménagé, des animaux qui sont habitués dès leur naissance à voir du public. On se déplace du coup avec des chèvres, des moutons, des lapins, des poules, des canards, un chien de direction pour faire des démonstrations de troupeaux. Et on passe une journée, une semaine avec ces gens qui en général sont pas forcément habitués au contact des animaux. Donc c'est un mélange de ferme et de médiation animale qui est très intéressant et qui nous permet de sortir un peu de la ferme et de partager notre passion pour des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'ici.
Puis pour finir, on a développé en fait au tout début le souhait d'accueillir des personnes sur la ferme, donc par le biais d'une cabane dans les arbres, mais pas si perché que ça finalement, pour ceux qui ont le vertige. Et du coup, ça permet d'accueillir 3 personnes en toute autonomie, avec une douche solaire. Il y a tout ce qu'il faut, mais de façon rudimentaire, histoire d'être vraiment en lien avec la nature qui nous entoure et assez isolé de nos bâtiments. Donc, ce qui fait que les personnes qui souhaitent être tranquilles peuvent bénéficier du calme et aussi de la rivière et de la montagne. Et ça fonctionne bien, ça nous permet de rencontrer des gens, de leur montrer aussi la ferme, de leur faire goûter nos produits. Donc nous, ça nous a permis au début aussi d'avoir un revenu autre que le revenu agricole qui, on doit le rappeler, est quand même plus compliqué à obtenir que des prestations de services. Et voilà, et ça nous a permis ça. Moi, je viens de Paris. Et dans ma formation d'éducatrice de jeunes enfants, j'ai été sensibilisée à la médiation animale tout en travaillant en protection de l'enfance. Et en fait, en parallèle, on s'est rencontrés et ce qui a fait une espèce de combinaison de projets. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, en arrivant dans le Vercors pour un travail et en cherchant un lieu d'habitation. Et ça s'est assez vite devenu évident de trouver un lieu qui nous permette de créer une ferme. Et donc, au fur et à mesure, voilà, il y avait ces noyers, cet espace. De toute façon, nous, on était toujours accompagnés d'animaux, même avant de trouver la ferme. Donc, on avait déjà un mini-élevage de chacun de ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, ils sont arrivés avec nous ici et on a développé en fonction... on a développé en fonction de ce qui nous plaît, de ce qu'on sait faire. Parfois, on a aussi développé en fonction des contraintes. Mais parfois, on a révisé ces choix-là, puisque en fait, notre objectif, c'est de vivre de ça, mais de bien vivre et pas faire des choix qui nous correspondent pas. Du coup, voilà, c'est de faire avec l'espace qui nous est donné, de faire avec ce que la nature nous offre, en essayant de le développer, mais sans jamais aller contre, parce que de toute façon, moi, mes conclusions, c'est que forcément, ça va pas avec si on va contre.
De mon côté, j'ai toujours travaillé en agricole depuis mon adolescence. Des premières cueillettes jusqu'à arriver dans le Vercors pour faire le service de remplacement. La PAP, qui m'a appris à aller dans énormément de fermes du Vercors, aussi bien autour de Pont que vers Chichiliane. Et ceci plus cela a fait que j'ai rencontré assez de gens pour être assez expérimenté, malgré que j'avais une formation agricole, c'était pas suffisant à mon goût. Pour ensuite trouver cette ferme et exploiter un peu toutes les richesses que chacun m'avait apportées. Et aussi pour me méfier de tous les travers de l'agriculture et de la détresse agricole actuelle que j'ai vu et ressenti dans énormément d'exploitations. Et enfin, je me suis rendu compte qu'aussi dans beaucoup d'exploitations, elles étaient grandes, elles étaient bien, mais c'était toujours pour un type d'élevage. Et que du coup, j'ai pris tout le bon qu'ils avaient à m'apporter, j'ai mis de côté tout le reste, et l'idée, c'était que entre ma jeunesse et le monde du travail, le jour où on a trouvé notre ferme, l'objectif, c'était d'être assez diversifié pour justement ne manquer de rien. Donc déjà faire son alimentation, ce que malheureusement les agriculteurs n'ont pas forcément le temps de faire. Me considérant plus petit paysan, je n'ai pas forcément beaucoup plus le temps, mais j'en fais une affaire personnelle que nous fassions nos légumes, nos fruits, nos viandes, etc. Et c'est quelque chose qui était important pour nos enfants, qu'ils aient une alimentation saine malgré de petits revenus agricoles. Et donc on s'est diversifié, donc Camille avec ses talents de maraîchage et de transformation, et surtout de cuisine exceptionnelle. Et de mon côté, c'était plus l'animation, l'élevage et le côté aménagement nature sur la ferme. Donc je me suis plus développé sur l'accueil de la cabane, sur les fermes pédagogiques, sur l'élevage des chèvres, des moutons et l'entretien des terres, l'aménagement des terres. Et ça me passionne. Donc j'aime parler avec les gens, j'aime écouter mes animaux. J'aime aménager la ferme de manière à ce qu'elle soit résiliente et agréable pour ce bout d'espace qu'on occupe et tous les animaux sauvages, ces fameux prédateurs qui nous encerclent. Donc on fait en sorte de vivre avec eux et de bien galérer avec certains. Et puis voilà, et puis ceci plus cela, ça fait 8 ans qu'on est là et on est encore là.
Viens vite. Hé, mes chèvres! Viens vite! Fais le tour en bas, Otan. Va chercher le mouton. Otan, fais le tour en bas.
Ah, peut-être qu'on va voir arriver. J'ai une chienne qui est trop bien. Elle connaît le territoire par cœur et elle me ramène qui elle veut une télécommande. Alors là, t'as des chèvres du Rhône. Là, t'as 3 chèvres de Savoie. Et ça, c'est une chèvre de chez Ezinjar. Donc, c'est une croisée alpine Sanen.
Là, t'as des brebis. Et là, tu vas avoir de la Mérinos, du Mouret Rouge, de la Bizet, de la ferme du Rocher. et pareil des bêtes qui sont pour la ferme, pour tous les endroits où je me déplace, il me faut des animaux qui soient super proches et qui aient peur de rien. Tu vois, sur des moutons, sur des trucs, tu fais tous les gestes de la terre, il se passe rien. Et ça, c'est super important pour moi d'arriver avec des animaux qui sont bien là où ils vont.
Et t'as choisi des races en fonction? Il y a des races qui sont plus dociles que d'autres?
Non, c'est juste que je voulais de la couleur et pareil de la variété, tu vois, dans le même délire que l'être humain, tu vois, le blanc, ça me gave vite. Donc si on peut avoir du métis, du noir, du jaune, toutes les couleurs, je trouve que c'est une richesse dans les fermes de pas avoir des agneaux ou des chevreaux qui naissent tous de la même couleur. Et c'est un bon support pédagogique de tolérance dans les écoles ou même dans les EHPAD. Hein. Et du coup, tu peux vite faire un rapprochement sur les couleurs des animaux et sur l'importance de la tolérance et justement qu'ils ont beau pas être de la même couleur, ils ont à peu près tout en commun et tout à fait ensemble. Donc c'est chouette, j'aime bien.
Par rapport aux arbres et au maraîchage, moi l'idée du lieu ici, c'est que on fait avec peu, sans mécanisation, pour pas mal de raisons. Moi, la première, c'est de faire avec ce qui nous entoure. Aussi, on a une contrainte de terrain qui est assez forte puisqu'on a un dénivelé important. Ça nous amène à faire des choix, de non-choix aussi. Typiquement, sur l'aménagement du jardin maraîcher, c'est des terrasses. Après, on a été inspiré beaucoup de Zepp Holzer, qui est le dieu autrichien agricole d'Alex. Mais voilà, pour essayer de comprendre ça, moi, ma compétence et mes connaissances sont encore en train de se faire par rapport à ça. Je fais avec ce que j'observe et avec ce qu'on a. On n'utilise absolument aucun intrant, on utilise seulement le fumier de nos volailles et de nos ovins, et parfois de nos ânes aussi. On travaille en agriculture biologique, on est certifié maintenant, on l'a toujours fait, mais maintenant on est certifié. Et du coup, c'est des semences qui ont un rendement plutôt bon, mais c'est que des variétés anciennes qui, pour moi, peut-être produisent moins que du F1, mais garantissent... des choses intéressantes, le fait de pouvoir reproduire ces semences aussi. Enfin, il y a des choses assez... des actes militants quand même dans ce qu'on fait par rapport à la liberté de reproduire ces semences. Voilà, l'idée, c'est d'avoir zéro impact. Donc c'est toujours cette réflexion-là qui est la nôtre en priorité sur ce qu'on met en place. Et en installant aussi des mares, toujours en s'inspirant de ce fameux Zepp Holzer, mais qui arrive à recréer des climats via des espaces comme ça avec de l'eau dans des montagnes autrichiennes à 1300 mètres, et on en est loin, et du coup on se dit que on n'est pas sur de la haute montagne, mais faut faire avec. C'est vrai que nous, on bosse pas mal tous les deux sur la ferme. Mais il y a un réseau qui est trop chouette, qui s'appelle le Café Paysan. Et en fait, il y a de l'entraide qui s'est fait parmi des groupes plutôt sur un petit secteur. Mais il y a surtout des échanges de mails qui se fait sur une liste. On peut demander des coups de main, commander des semences en gros pour pouvoir avoir des tarifs un petit peu moins chers, comme l'ail chaque année. Commander des bocaux, et puis proposer des ateliers pour discuter des semences. Enfin voilà, je sais que moi je participe pas à tout, mais il se passe beaucoup de choses et c'est toujours un support intéressant. Et je pense aussi à Cyril Fatou, qui est un initiateur de tout ça et qui est vraiment une référence dans le coin. Du coup, ça m'arrive aussi de travailler avec donc d'autres gens qui nous entourent, qui sont super intéressants et très doués. On s'est rapproché de Rudy Magne aussi, la pépinière de Saint-Laurent-en-Royan, qui connaît bien notre climat et qui a pu nous conseiller, qui commence à avoir une bonne expérience dans son domaine. Je travaille aussi avec la ferme du Rocher, que j'affectionne particulièrement, sur ses semences, parce que elle travaille très bien, elle produit ses semences, Sophie Cohen. Et qui m'aide aussi avec la production des plants de tomates. Voilà.
Là, t'as des canards colvés, des canards de Barbarie, fermiers, des poulets de toutes sortes et des oies. Du coup, là, je les élève et puis c'est pareil, j'en vends pas mal. Plus pour les gens qui veulent des petites poulettes qui changent des poules marrons, des poules noires. C'est des poules qui font des œufs de couleur, des trucs que les gens aiment bien. C'est vraiment mon dada, les volailles, les lapins, les trucs. Y en a... Bon, je me fais un peu déborder parfois, mais mais les rapaces m'auront pas, quoi. J'en ai toujours plus. Mon cauchemar, quoi. C'est qu'en fait, au début, ils étaient tous en liberté. Donc, tu vois, il y a 40 hectares, hein, donc ils n'étaient pas sur 40 hectares, mais tout autour de la ferme, au moins. Et c'est quand même super chouette. C'est vraiment l'ancien temps. Enfin, moi, j'ai reproduit la ferme de mon grand-père, tu vois, qui était, t'arrives à la ferme, il y a des animaux partout, c'est un wild total. Et ça bêle, et ça meugle, et puis voilà, tout ce que tu vois dans les chansons d'enfants, en fait, toi, tu le vis en vrai. Quand je suis arrivé à mon service de remplacement et que j'arrivais dans les fermes, bah, t'avais deux, trois chiens, les vaches, ou les chèvres, ou les moutons, ou les trucs, et puis pas toute cette diversité des pigeons, des machins, des trucs que je retrouvais quand j'étais gamin. Et du coup, l'objectif, c'était de refaire ce délire d'avoir des animaux de la ferme partout, quoi. Là, du coup, t'as des oies, mais elle, c'est la dernière qui reste là, puisqu'elles se sont fait défoncer par la fouine.
Et la fouine, ça bouffe une oie.
Et la fouine, jusqu'à il y a un mois, non, ne bouffait pas mes oies. Et là, je sais pas c'est une super fouine. Et cette super fouine, elle a défoncé mes super oies. Et ça m'a fait très mal au cœur, parce que je les aime bien, c'est des oies normandes assez spéciales.
Nous, on va dire, on est des jeunes paysans, donc là on a la quarantaine, mais quand on s'est installé ici, on savait un peu qu'on aurait des prédateurs des airs, des prédateurs du sol. Alors nous, du ciel, on va avoir l'aigle royal autour des palombes, la buse variable, le faucon pèlerin, le circaète. Bon, le circaète, il prend les serpents, il nous embête pas. Enfin, et encore, on aime bien les serpents. Mais du coup, c'est compliqué, puisque pour l'élevage, notamment des volailles, des lapins, etc., en plein air, bah, du coup, moi, je produis plus pour leur donner leur part. Sauf que leur part, j'ai l'impression que parfois, ils ont un peu des tendances à nous regarder, nous humains, et se dire, ouais, ils en prennent plein, bah, on va faire pareil. Du coup, ils en prennent plus que de raison. Donc voilà, parfois, je sers un peu d'élever en extérieur sur beaucoup d'espace. Je perds beaucoup d'animaux, mais je suis content de pas leur mettre un coup de plomb et de me dire que je suis arrivé dans cette belle vallée de la Vernaison bien sauvage et que si je suis venu parce qu'elle était sauvage, faut que j'accepte le monde qui vit avec. Moi, on va dire que mon loup à moi, c'est l'aigle et les autours. Et du coup, j'avais mis les cochons avec les volailles et ils avaient peur des cochons. Mais ensuite, les cochons ont démonté le sol, ce qui ont fait apparaître un nombre de plantes indésirables conséquentes. Et puis il y a eu la neige et les cochons se sont enfuis et les volailles se sont enfuies et puis du coup j'ai arrêté les cochons et puis les autours se sont rendus compte que les cochons n'étaient plus là. Et finalement la solution c'est d'avoir moins d'animaux et de les protéger mieux, c'est-à-dire éventuellement faire une volière couverte gigantesque, mais qui demande des moyens et du temps et du temps et du temps et du temps, et les moyens c'est ce dont on manque le plus. Donc non, pour l'instant je fais avec, je donne beaucoup aux prédateurs et puis j'aime bien les voir. Donc s'ils pouvaient faire ça quand je suis là, au moins ça mettrait le désagréable à l'agréable. Mais non, on a tellement peu de temps pour quitter notre vallée, pour aller observer la montagne et la nature, que c'est agréable aussi de la voir ici. Et après, au sol, on va voir plus tout ce qui est renard, fouine, belette, etc. Le loup est de passage, mais jusqu'à présent... Je touche du bois, il est de passage. Et puis les chiens autour font que peut-être ils se posent des questions au niveau des odeurs, si ça vaut le coup de venir par là. On va dire on a très peu de parasitisme dans le potager, dans le jardin de maraîchage et en arbo. Notamment parce que les volailles sont sous les noyers, donc je pense que ça aide d'une pour nourrir les arbres et de deux pour toutes les parasites qui tomberaient au sol au lieu de... Il serait bouffé par les volailles. Après, pour le potager, on a mis surtout en place des zones, des zones de broussailles, des zones de... Mais on remarque qu'on a plus d'oiseaux via les mares, parce que quand même l'eau vient à manquer, donc quand ils ont plus d'eau, c'est compliqué pour eux. Et plus de zones embroussaillées, plus d'arbres fruitiers qu'on leur laisse une part aussi. Donc ça fait que les serpents sont là, les crapauds, les grenouilles, les oiseaux. et qu'on ne souffre pas, malgré aucun engrais chimique, on ne souffre pas de destruction significative de nos productions.
Non, même au jardin, c'est vrai que, comme beaucoup, au début, j'ai essayé les fameuses petites billes bleues pour les limaces, parce que c'est elles aussi qui font pas mal de dégâts. Sauf qu'en fait, moi, j'y arrive pas. Du coup, on a remarqué qu'elles adoraient les végétaux en décomposition. En fait, plus que presque que ce qui pousse à côté, on a quand même pas mal de broussailles autour, quoi, de bois, machin, enfin bref. Et du coup, quand j'arrache les mauvaises herbes, je garde des tas et en fait, au lieu de disperser des billes bleues, je disperse des végétaux. Et c'est vrai que j'ai un peu de perte, mais honnêtement, pas énormément. Et j'ai l'impression que ça a régulé au fur et à mesure des années. Et en fait, on les retrouve en train de se gaver de ces végétaux en décomposition. En tout cas, cette année, ça a encore bien marché. Donc voilà, c'est des petites astuces, mais qui fonctionnent bien, je suis contente.
De par notre diversité, on peut se permettre d'essayer des choses que d'autres ne peuvent pas, puisque si tu as une activité de maraîchage et que tu dépends de tes planches et de tes productions, c'est plus compliqué de faire des essais. Après, ça reste qu'on est sur des années aussi qui sont tout le temps changeantes. Nous, on plante tardivement, vu qu'on est à Échevis, on n'a pas le même climat qu'à Saint-Laurent, qu'à Saint-Jean. Et le timing limace, finalement, on arrive limite à le passer quand Camille plante, repique tous ses produits. On a des années où les limaces, elles sont beaucoup en bas et nous, on est plutôt tranquille. Donc ça, c'est une première mare qu'on a faite. Tu vois, là, on voit des petites grenouilles et puis... ça fait qu'il y a quand même une belle biodiversité. On a des couleuvres tous les jours en ce moment, des petites couleuvres à collier qui viennent manger des têtards. Et on a surtout beaucoup d'oiseaux. Tu vois, il y a pas mal d'endroits où les oiseaux peuvent venir doucement dans la mare. Et donc, ils viennent se baquer tranquille. Et toute l'année, ils sont là, quoi. Enfin, je trouve que la population d'oiseaux augmente à chaque endroit où il y a une mare. Celle-là, c'est sa troisième année. Alors, j'ai fait ça en récup, c'est un premier essai. Donc là, je suis en train de voir pour faire des mares avec de l'argile bentonite, avec la LPO. On a un partenariat qui va peut-être démarrer là, qui est pas mal. Entre les haies et les mares, ils peuvent nous aider, ils aident les fermes à développer leur biodiversité. Ce qui est bien, c'est comme avec 8 ans ici, on a une belle lecture du terrain, des animaux de passage, des animaux permanents. Et du coup, ils sont venus là pour nous aider financièrement et physiquement à faire les mares et les haies comestibles pour la biodiversité.
Alors du coup, parmi toutes ces années, à de nombreuses reprises, j'ai régulièrement croisé Aurélie Gachon, qui représente le parc du Vercors et l'association des fermes du Vercors. Et une fois qu'on a été enfin prêts à adhérer et accueillir du public pour vendre nos productions, j'ai dit top là à Aurélie. Et puis depuis l'année dernière, donc on fait partie du réseau Ferme du Vercors. Donc ils ont proposé cet événement à tout bout de champ, qui est une année sur deux en fait en quinconce avec la fête du bleu. Ça m'a parlé, donc on a proposé notre candidature et on a été retenu cette année, et ce qui nous permet de faire le grand saut dans une belle porte ouverte avec de jolis partenaires qui sont les fermes du Vercors et le parc du Vercors. Donc l'événement, c'est le samedi 4 juillet, ça démarre à 10h. Et tout au long de la journée, on aura aussi la dégustation des produits de la ferme, pour pouvoir goûter un peu ce qu'on sait faire avec ce qu'on produit, voilà. Déguster de l'huile de noix, du jus de pomme, des compotes, des confitures, de la crème de marron... du coulis de tomate qui sera donc mis à l'honneur dans une entrée froide au repas fermier, des petites tomates cerises marinées, et puis après dans le repas on fait d'autres choses sucrées et salées, mais ça c'est une surprise.
Et donc ce fameux 4 juillet 2026, on fait cet événement du coup à la ferme, l'événement à tout bout de champ. Donc l'idée c'était d'essayer un peu de sur une journée de montrer un peu tout ce qu'on fait, tout ce qui nous tient à cœur. Donc on démarre à 10h par le spectacle de la ferme itinérante. Donc c'est un spectacle d'une heure qui est adapté pour les écoles et tout type de structure pour les enfants et les personnes âgées. Et l'objectif, donc ça s'appelle Fermier pour congé annuel. Et donc c'est un spectacle ludique et pédagogique rassemblant mes compères de la ferme, donc les chèvres, les moutons, les poules, les canards, les oies. Et on mêle les enfants à la ferme, l'objet en parlant d'un paysan qui souhaite partir en vacances pour la première fois. Et du coup, il aimerait confier sa ferme à des remplaçants, donc un peu comme moi qui est au service de remplacement. Et pour ça, il fait appel à tous ses enfants pour leur expliquer son travail sur une journée ou sur une année et voir si à la fin, ils seront capables de pouvoir gérer la ferme et que lui pourra partir définitivement une petite semaine en vacances au Costa Rica. Et ensuite, donc ça dure à peu près une heure. Ensuite, on fait un déjeuner fermier. Donc pareil, c'est que notre ferme, on l'a monté aussi par rapport à notre alimentation, ça nous tenait à cœur et du coup ça fait des années que nous cuisinons pour nous et pour les autres et du coup on propose un déjeuner fermier aux alentours de midi avec des spécialités d'un compère et les nôtres. N'hésitez pas, ça va être bon, ce sera au feu de bois et ce sera à midi. Et l'après-midi, on fait des visites de la ferme, donc deux visites. Et donc, on va aller visiter un peu tous les animaux de la ferme et puis les aménagements qu'on a fait pour justement ce système agroécologique qu'on a mis en place. Puis partager avec tous ces gens qui éventuellement souhaitent mettre en place des ateliers chez eux, que ce soit des poules, des lapins, un peu de maraîchage, un peu d'arbaux. Discuter de tout ça. Et en parallèle, on a un incroyable artiste qui se déplace pour venir jusqu'à nous, qui s'appelle Kobe, qui a fait une belle exposition dans le Royan Vercors sur les déchets. Et ça nous a beaucoup plu. C'est chouette, ça questionne, ça choque et ça fait du bien. Et du coup, Camille a eu cette idée de proposer un partenariat avec lui autour de l'agriculture, de la paysannerie et de l'actualité. Et il a su répondre favorablement à ce souhait et à bien sûr sortir exactement les punchlines qu'on veut entendre et qu'on veut voir sur nos t-shirts. Donc il propose de la sérigraphie. Venez avec vos t-shirts vides et vous repartirez avec des phrases sympathiques et percutantes sur le monde agricole d'aujourd'hui et la paysannerie.
Kobe, on l'a découvert sur cette fameuse campagne des déchets qui a été mandatée par la communauté de communes du Royan-Vercors. Et j'ai aimé que ce sujet, enfin, soit traité d'une façon ironique pour nous permettre de comprendre parfois l'aberration de ce qui se passe. Et avec humour, je trouve que ça nous permet de rire de soi, des autres, tout en dénonçant des choses qui se passent. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé sa façon d'aborder les choses. Et j'ai poussé un peu la recherche avec d'autres de ses ouvrages et j'aime bien la couleur de son art. Et voilà, j'ai osé lui poser cette question-là pour savoir si c'est quelque chose qui pouvait l'intéresser. Et il m'a dit oui tout de suite en me disant qu'il n'avait pas abordé ce thème-là, qui pourtant était un thème qui lui tenait à cœur. Et du coup, on a vraiment travaillé ensemble là-dessus, sur plusieurs thèmes, les animaux, la nature, la ferme, voilà. Et le résultat est chouette. Ils seront présentés différentes phrases sur différents thèmes. Et voilà, ravie de pouvoir l'accueillir à la ferme et puis surtout de montrer à d'autres personnes qui ne le connaîtraient pas, qui est quelqu'un de Grenoble aussi, donc on est dans du local.
Vous venez d'écouter le portrait sonore de la ferme de la Bicoque à Échevis, un épisode de la série « À la découverte des fermes du Vercors » réalisé par Radio Royan et soutenu par les départements de la Drôme et de l'Isère. Retrouvez la suite des épisodes sur le site internet du Parc naturel régional du Vercors.